الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد مشي فغير سور أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Le sujet que nous allons, Inch'Allah ta'ala, aborder aujourd'hui ensemble, durant cette soirée, est un sujet qui malheureusement n'est pas souvent évoqué. Et je dirais même que c'est un sujet qui est souvent oublié. Et pire que cela, j'irai même plus loin en disant que malheureusement, beaucoup dans notre communauté, parmi nos frères et sœurs, n'en sont même pas conscience de son existence. Croyez-moi, il y a des gens parmi nous, dans notre communauté, qui ne savent pas qu'il y aura un Messie Dajjal, un antéchrist qui va apparaître, qui va débarquer parmi nous et qui sèmera le désordre, el fitna, parmi donc les hommes et parmi les croyants. Malheureusement, beaucoup ne le savent pas. Et c'est pour cela que, entre autres, j'ai choisi donc ce sujet. Alors, avant tout, je vous donne, Inch'Allah, la table des matières donc de notre sujet pour commencer. Alors, cette table des matières se divise dans les points suivants. Premièrement, j'ai procédé à une introduction, Tawtia. Cette introduction inclut 4 points. Le premier point, les raisons du choix de ce sujet. Pourquoi avoir opté pour ce sujet? Et il y a 2 raisons principales. Deuxièmement, toujours dans l'intro, la connaissance, l'importance de la connaissance des signes de la fin des temps, et cela fait partie des prérogatives de notre foi. Troisièmement, une question qui s'impose, tous les signes sont-ils apparus? Et quand Al-Masih Ad-Dajjal, l'Antéchrist, quand sortira-t-il? Quatrièmement, toujours dans l'intro, je rappelle, les circonstances, le climat dans lequel va sortir Ad-Dajjal. Il va sortir dans un climat bien particulier, il va sortir dans des circonstances bien définies. Ça, ce sont donc les 4 points qui seront abordés dans l'introduction, Inch'Allah. Ensuite, je vous parlerai de Al-Masih Ad-Dajjal, qui est le thème d'ailleurs de notre intervention et conférence aujourd'hui, donc l'Antéchrist. Je commencerai bien entendu par une définition de 2 termes, une définition linguistique de 2 termes. Le premier c'est Al-Masih, que veut dire le mot Masih, et le deuxième terme, Al-Dajjal, que veut dire Dajjal. Ensuite, d'où sortira-t-il? Quelles sont ses caractéristiques? Quels sont ses miracles? Ou ses soi-disant miracles, ses tromperies, ses duperies par lesquelles il va faire tomber beaucoup de personnes dans son piège, ils le suivront. Et un arrêt important s'imposera parce que nous parlerons d'un homme qui a vécu à l'époque du prophète, c'était un adolescent qui a été source de confusion chez les compagnons et même chez les savants venus par après. Il s'agit d'un certain Abdullah ibn Sayyad, on va découvrir ensemble, Inch'Allah. Ensuite, septièmement, comment se prémunir, comment s'immuniser, al-wiqaya, comment se prémunir, comment s'immuniser contre l'épreuve de cet antéchrist, ce Messie Dajjal. Et huitièmement, comment périra-t-il? Il sera au fait de sa gloire et comment va-t-il chuter? Et il connaîtra à ce moment-là donc la fin de sa gloire et de son règne. Et neuvièmement, et c'est la fin du sujet, Inch'Allah, je parlerai de quelques concepts erronés qui ont tourné autour du Messie Dajjal pour rectifier donc tout cela. Ça c'est donc, mes chers frères et sœurs, la table des matières donc de notre conférence afin que vous puissiez suivre avec moi dans l'ordre des choses. Alors, pour commencer, quelles sont les raisons, les motivations qui m'ont poussé à opter pour ce sujet? Premièrement, je souhaiterais m'inscrire dans la lignée de ces prophètes, de ces savants, de ces prédicateurs qui ont mis en garde la Ummah, qui ont mis en garde la Ummah quant à l'apparition de cet homme qui va semer le désordre et la corruption sur terre. Et malheureusement, beaucoup de gens de notre communauté à cette époque-là tomberont dans son piège, parce qu'ils ne le connaissent pas. Et on verra comment il va débarquer, comment il va apparaître, comment il va émerger sur la scène. Alors je souhaite faire partie de ces gens, de cette lignée, silsila, silsilatul indar, cette lignée d'avertissement. Et le prophète sallam, dans Sahih Bukhari et Muslim, dit, il dit, « Ma min nabi illa wa anzara ummatahu al-ahwar al-kadhab » Il n'y a pas un prophète qui n'ait pas averti sa communauté quant au danger imminent de ce borne et de cet imposteur qui est Al-Masih Dajjal. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui m'a poussé à choisir ce sujet, opter pour ce sujet, c'est faire de ce sujet un rappel, tadhkir, car malheureusement, lorsqu'il apparaîtra, il sera oublié. Les gens l'auront déjà oublié. Ils auront oublié qu'il apparaîtra, qu'il émergera un jour et qu'il semera désordre et corruption sur terre. Alors ce sont les deux raisons qui m'ont certes poussé à choisir ce sujet. Ça c'est le premier point de l'introduction. Deuxièmement, nous devons savoir qu'il est important pour nous, croyants et croyantes, de connaître les signes de la fin des temps. Ashrat al-sa'a, alamat al-sa'a, ma'rifatuha. Min mujibat al-iman. Cela fait partie des prérogatives de la foi de connaître tout ça. Et le prophète sallam nous a tout appris. Laqad 'allamana ar-rasul sallam kull shay. Comme le disait Abu Dharr, il dit laqad tarakana Muhammadun wa ma min ta'irin yuharriku janahihi fi as-sama' illa wa athkarana minhu 'ilma. Le compagnon Abu Dharr, comme le relate l'imam Ahmed dans son Musnad, il dit que Muhammad sallam nous a laissé, et même lorsqu'un oiseau bougeait ses ailes dans le ciel, il nous disait pourquoi. Donc le prophète Mohammed sallam nous a tout montré, tout démontré. Et parmi les choses qu'il a démontrées d'une façon évidente et manifeste, ce sont les signes de la fin des temps. Ces signes qui attendent la Ummah. Ces signes qui seront au carrefour de que notre communauté va croiser dans l'histoire. Et il est important certes de les connaître afin de savoir comment agir. Et le fait de connaître ces signes, nous pouvons dégager de cela trois choses. Premièrement, ça nous aide à y croire, l'iman. Parce que ce que le prophète sallam dit, il ne parle pas de ses passions. Comme le dit le Seigneur dans la sourate Al-Najm, la sourate l'étoile, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّهَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّهَا. Le prophète ne parle pas de ses passions. Il n'est que révélation inspirée. Donc, il est important pour nous, mes chers frères et sœurs, de croire en tous ces signes, grands soient-ils ou petits. Tous ces signes que le prophète sallam nous a parlé, nous a décrits, nous devons y croire fermement. Comme étant des signes qui effectivement existent et apparaîtront. Et certains sont déjà apparus. Et surtout, faisons en sorte de ne pas laisser notre raison à l'aql intervenir. Car certains qui ont voulu un peu philosopher se sont permis de nier, comme on va le voir par rapport à, entre autres, à ce sujet de Masih Dajjal, certains se sont permis de nier son existence. D'interpréter, de dire qu'il s'agit d'une métaphore. Un imajaz. C'est une métaphore. Ils disent que le Dajjal, ce n'est pas une réalité, c'est une métaphore. Et ça, on va voir ça tout à la fin de ce sujet, Inch'Allah. Donc, la raison n'a rien à voir ici. Ça fait partie, ces questions de l'invisible, ces signes de la fin des temps s'inscrivent dans ce qu'on appelle l'invisible ou la science de l'invisible, ilm al-ghayb. Et ilm al-ghayb, on ne le connaît que via la révélation. La yu'rafu ou la tu'rafu masa'il al-ghayb illa an tariq al-wahy. Les questions qui sont d'ordre occulte, qui appartiennent à ce monde invisible que nous n'arrivons pas, qu'il est impossible pour nous d'appréhender, de percevoir, nous ne pouvons connaître cela qu'à travers la révélation et le wahy. Ça, c'est important à retenir. Et la deuxième chose que nous tirons par rapport à l'importance de la connaissance des signes de la fin des temps, c'est que le fait de connaître ces signes permet aux croyants et à la croyante d'être sur ses gardes, de ne pas tomber dans certains de ces signes, mais aussi de ne pas être un facteur encourageant de ces signes. Et le compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman, relate dans, comme il est mis dans Sahih al-Bukhari Muslim, il dit كان الناس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. Il dit les gens à l'époque du prophète Hudhayfa ibn al-Yamani dit, il dit les gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le bien. Quant à moi, je l'interrogeais concernant le mal par peur qu'il ne m'atteigne. Donc voilà, l'importance de la connaissance de ces signes afin que nous ne tombions pas dedans. Et afin aussi de ne pas être un facteur encourageant de ces signes même. Et un poète disait, il disait, « عرفت الشر لا للشر لكن للتوقيع ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. » Il dit, « عرفت الشر لا للشر لكن للتوقيع. » J'ai connu le mal, non pas pour le mal lui-même, mais pour l'éviter. « لكن للتوقيع ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. » Et celui qui ne distingue pas le bien du mal tombera dedans. Donc, ça c'est donc parmi la deuxième chose que nous tirons de l'importance de connaître ces signes. Troisième chose que nous tirons, qui se dégage de l'importance pour nous de connaître, d'étudier ces signes de la fin des temps, c'est de répandre ces signes. De répandre ces signes, de les enseigner aux grands et aux petits, aux hommes et aux femmes, à tout le monde. Afin que la conscience et que l'éveil, elle waï, que la conscience et l'éveil puissent se répandre dans notre communauté. Mais aussi, dans le même ordre, de définir l'attitude correcte à avoir par rapport à ces signes. Parce que le fait de beaucoup parler de ces signes risque de faire basculer certains dans le scepticisme, être sceptique, ou plutôt dans le pessimisme. La personne devient pessimiste et ne fait plus rien. Elle dit qu'il n'y a que des malheurs partout. À quoi bon agir et bouger? Et certains risquent même de mettre en pratique certains hadiths où le prophète Hassem nous parle que parmi les signes de la fin des temps, ou plutôt qu'il est préférable pour certaines personnes à la fin des temps de monter au sommet d'une montagne et d'adorer son Seigneur-là loin des épreuves. Alors certains pourraient mal comprendre ces hadiths et les appliquer comme ça à la lettre. Alors que ces hadiths-là parlent de ces moments où les épreuves sont prédominantes, où le désordre règne. Que dans quelques mois, ce sera la fin des temps et qu'il fallait vite faire ceci et cela. Paraîtrait-il que ce frère en question, qui est au bord de la déprime, s'il n'est pas tombé déjà dans la déprime, il paraît que il a commencé à être, excusez-moi l'expression, il a commencé à être dégoûté de la vie. Il dit, comment je vais faire? Je ne me suis pas encore marié. J'ai des projets, je voudrais me marier, je voudrais travailler, je voudrais terminer mes études. Comment je vais faire maintenant? Donc tous ces projets tombent à l'eau à cause de cette information. Et ça, c'est très dangereux. Alors c'est pour cela, mes chers frères et sœurs, faites attention par rapport à ces lettres, à ces missives qui circulent parmi vous. Vous ne devez pas accepter ces feuilles qui appartiennent à des charlatans et déchirez-les et mettez-les à la poubelle ou brûlez-les tout simplement, car il n'y a rien derrière tout cela. Il n'y a rien. Impossible pour un homme de connaître la fin des temps. Le prophète lui-même ne connaissait pas la fin des temps. Le prophète Sarsem lui-même ne connaissait pas l'heure quand on va venir. Alors comment Amadou, lui, sait que c'est dans quelques mois? Comment le sait-il? Le prophète, avez-vous oublié, mes chers frères et sœurs? Pourquoi ces frères et sœurs ont mis en veilleuse leur conscience, leur raison? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith Jibril, n'a-t-il pas été interrogé par Jibril? Lorsque Jibril dit, « Matessa'a, quand viendra l'heure ?» Et le prophète de répondre, « Mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. » Celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. Alors comment dire que plus tard, 15 siècles plus tard, un homme, dans ce soi-disant un rêve, il est au courant que dans quelques mois, il y aura la fin des temps? Donc ça, c'est des choses aberrantes. Et faites attention donc à cela. Donc l'étude de ces signes, mes chers frères et sœurs, ne doit pas pour autant nous faire basculer dans le pessimisme. Il faut continuer à agir, continuer donc dans ce que nous faisions, craindre Allah Azza wa Jal et se prémunir contre ces signes et ne pas tomber dedans et ne pas être un facteur encourageant donc de ceci. Très bien. Alors, le point suivant, maintenant que nous savons qu'il est important de connaître les signes, il y a une question qui s'impose. Les signes de la fin des temps, les signes de la fin des temps, se sont-ils tous concrétisés? Sont-ils tous présents? Et une autre question qui s'impose également, quand sortira Ad-Dajjal, l'Antéchrist et le Messie Ad-Dajjal? Quand sortira-t-il? Avons-nous une date, un calendrier qui nous permet de savoir quand exactement sortira-t-il? On n'a pas de calendrier. On va revenir à la première question. Quant à ces signes, la majorité de ces signes sont là. La majorité des petits signes, vous devez savoir que les signes se divisent en deux catégories. Il y a des petits signes et des grands signes. Al-Asharat al-Sughra ou Al-Asharat al-Kubra. Al-alamat al-sughra, al-alamat al-kubra. Al-amarat al-sughra, al-amarat al-kubra. Il y a les petits signes et les grands signes. Les petits signes, ce sont eux qui préparent le terrain pour les grands. Quant aux petits signes, la majorité d'entre eux sont là. Mais il en reste encore qui ne sont pas encore apparus. Il faut savoir. Alors je vais vous citer pêle-mêle quelques-uns de ces petits signes. Le premier des petits signes, c'est la venue du prophète Mohammed. C'est le premier signe. Le premier petit signe est la venue du prophète Mohammed. Le prophète nous dit Bu'ithu ana wa sa'a ka hatayn. Il dit j'ai été envoyé, moi et l'heure, donc la fin des temps, comme ces deux doigts. Et il a serré wa damma as-sababata wal wusta. Il a serré donc le majeur et l'index, les deux doigts, il les a serrés. Pour préciser qu'entre lui et la fin des temps, la durée est très courte. D'accord ? Aussi, parmi les signes qui sont déjà apparus, il y a la conquête de la Palestine, la conquête de Beit al-Maqdis. La conquête de Beit al-Maqdis et l'apparition d'une épidémie, d'une peste qui va se répandre et qui va faire ravage en Syrie et en Palestine. Alors, là, effectivement, le prophète a annoncé parmi les signes de la fin des temps, Fath Beit al-Maqdis, la conquête de Jérusalem, de Maqdis, effectivement, en l'an 16 de l'Hégire, fil l'âme 16 Ajar, l'île Hijra, Beit al-Maqdis a été soumis aux musulmans, et ce, sous le califat de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu arda. Et quant à cette épidémie, qu'on appelle l'épidémie de Imwas, qui est une région donc en Palestine, qui a fait plus de 25 000 morts, cette épidémie, cette peste qui s'est répandue, a fait comme victime plus de 25 000 morts, comme l'indique Ibn Kathir dans son livre d'histoire, Al-Bidai wa Nihaya. Et je vous rappelle que ce signe est apparu en l'an 18, donc deux ans plus tard, en l'an 18, donc de l'Hégire. Et certains compagnons sont morts dans cette épidémie, entre autres le compagnon Mu'ad ibn Jabal. Le compagnon Mu'ad ibn Jabal fait partie de ces compagnons qui ont été victimes donc de cette épidémie, cette peste. Aussi, parmi les petits signes de la fin des temps, la division de la communauté en 73 sectes. Et également, cela fait partie des signes que la communauté va éclater en beaucoup de tendances sectaires. Au point que lorsque le prophète Asselim a annoncé en disant que les juifs s'étaient divisés en 71 sectes, que les chrétiens se diviseront en 72 et que les musulmans en 73, elles sont toutes exposées à l'enfer, c'est là que les compagnons interrogent. Lorsque le prophète dit « Illa wahida » sauf une seule voix sera sauvée de cela. C'est là que les compagnons disent « Ouma hiya Rasulallah » Quel est ce groupe ou cette partie de la communauté qui échappera donc à ces tourmentes, à ces menaces d'enfer, de châtiment? Il dit « Ma ana alayhi al-yawm wa ashabi » C'est le chemin sur lequel je suis moi et mes compagnons. Voyez-vous? Donc la voix d'Ahl Sunnah al-Jama'a, ce n'est pas un groupe. Ce n'est pas un groupe de personnes entre eux comme ça, un petit clan, nous on est sauvés, on a le ticket du paradis, c'est bon, stop, les autres sont tous en enfer, sont égarés, moi je suis tranquille. Non, c'est pas eux. Ce n'est pas un groupe de jeunes qui se disent, c'est nous, Firq al-Najia, le groupe sauvé, c'est nous. Les autres, kullum ahlul dalal. Tous les gens d'égarement, toute personne, tout croyant, croyante qui adhère au fondement d'Ahl Sunnah, dans la croyance, dans sa ibadah, dans son comportement, dans toutes les facettes, fi Abu Abdin, eh bien, il fait partie de Firq al-Najia. Il fait partie de ces gens qui seront sauvés, inshallah, donc de l'enfer. Donc faisons attention aux dérives sectaires, mes chers frères et sœurs. Également, parmi les signes frappants et évidents qu'on voit parmi nous, la propagation de la fornication. Intishar zina. La propagation de la fornication est aussi un des signes des petits signes de la fin des temps, qui est malheureusement maintenant très très répandu, ainsi que intishar riba. La propagation de l'usure, du prêt-intérêt, du crédit. Également, cela fait partie des petits signes de la fin des temps. Et le prophète sallam dit, il dit, inna min ashrat as-sa'a, et il a cité certains, ensuite il dit, wa yadharu az-zina. Et az-zina, la fornication, donc apparaîtra et se répandra parmi les gens. Et maintenant encore plus, lorsqu'on voit que les pays arabes et musulmans sont visés par ces congrès internationaux qui sont organisés ces dernières années, entre autres le congrès de Pékin, le congrès du Caire, où soi-disant on appelle à l'émancipation de la femme et on appelle aussi à ce qu'ils appellent la liberté individuelle de la femme et qu'il fallait briser certains tabous. Eh bien, ça fait partie aussi de ces choses-là où on essaie de répandre de force, donc la perversion. Aussi, concernant le prêt intérêt, riba, le prophète va même plus loin. Il dit « Les atiennes à l'annas » Zamanun, la yubal mar bima akhath, amin halal, amin haram. Il deviendra une époque où les gens, où l'individu ne fera plus attention quant à ses biens. Ses biens sont-ils acquis d'une façon licite ou illicite pour lui, c'est pareil, c'est la même chose. Eh bien, c'est ce qu'on voit malheureusement maintenant. Chez les commerçants, chez les gens qui font des affaires, il ne fait pas attention, peu importe. Il triche dans le mizan, il dupe les gens de par ses beaux propos, etc. Plus important pour lui, c'est de gagner de l'argent à n'importe quel prix. Eh bien, ça fait partie des signes, mes chers frères et sœurs, de la fin des temps. Aussi, parmi les signes de la fin des temps, les petits, taqarabul aswaq wa zaman, la proximité du temps et des marchés. C'est-à-dire que viendrait l'époque, on est un peu dedans maintenant, que, comme l'indique le prophète, il dit qu'une année équivaut à un mois. Et un mois équivaut à une semaine. Et une semaine équivaut à un jour. Et plus que ça, il nous dit, il dit, la taqum sa'a hatta tadhar al fitan wa yakthur al kadhib wa tataqarab al aswaq. Il dit, donc l'heure ne sonnera pas jusqu'à ce que les épreuves se répandront, jusqu'à ce que le mensonge également se répandra, et aussi lorsque les marchés seront proches les uns des autres. Et ça, on vit ça maintenant. Quelqu'un qui est commerçant en Chine, eh bien, il est au courant du prix de la marchandise en Russie ou bien en sa province, là où il habite. Et lorsqu'il est arrivé à la Mecque, donc pendant Ramadan, pour donner donc ces doros qu'il donnait durant le mois de Ramadan, la première chose qu'il a commencé, il leur a dit, sur mon chemin, j'étais attentif, j'ai observé un signe que le prophète Hassan nous a donné. Il a dit, je me souviens que sur le chemin, en venant à la Mecque, le chemin, donc, à part la route, sur les bords, sur les côtés de la route, c'est du désert. Il dit, maintenant, lorsqu'on avance, on voit de l'herbe qui commence à pousser. Et c'est vrai, subhanallah, personnellement, je l'ai même remarqué. Donc, avant, c'était désertique, il n'y avait rien. Et maintenant, on voit de l'herbe qui commence à pousser, certaines plantes par-ci et par-là. Ça, c'est la preuve, bien sûr, de ce qu'a dit le prophète. Eh bien, parmi ces signes de la fin des temps, qui ne sont pas encore vraiment arrivés, c'est que l'Arabie va redevenir verte, et elle va retrouver des fleuves, comme dans le passé, comme en temps. Aussi, parmi ces signes qui ne sont pas encore arrivés, c'est le fleuve de l'Euphrate, le retrécissement du fleuve de l'Euphrate, au point qu'apparaîtra une montagne d'or auprès de laquelle des gens se combattront. Et sur 100 personnes qui s'entretueront pour prendre cet or, 99 mourront et une sera sauvée. Chaque personne voudra, ce sera la ruée vers l'or. Chaque personne voudra absolument cet or qui se trouve donc auprès de cette montagne. Et vous n'êtes pas censé ignorer qu'au Moyen-Orient, l'un des grands problèmes du Moyen-Orient, c'est le problème de l'eau. Et c'est pour ça qu'il y a eu des accords entre Israël et la Turquie pour exploiter l'eau, et l'eau est devenue une arme. L'État au Moyen-Orient, l'État qui manipule l'eau, eh bien, il peut se permettre de dicter ses conditions. Et c'est pour ça qu'il y a tension jusqu'à maintenant d'ailleurs entre des pays comme la Turquie, la Syrie, bon, l'Irak avant, à cause de fleuve, entre autres l'Euphrate, où chacun essaie de récupérer à sa manière. Donc ça, c'est l'une des preuves que ce signe viendra, n'est pas encore arrivé, où le fleuve va se retrécir et apparaîtra donc cette montagne d'or auprès de laquelle se battront des gens pour se procurer chacun d'entre eux donc une partie de cet or. Et encore un autre signe là-dessus, je termine pour les petits signes. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a encore d'autres. C'est souhaiter la mort. À cause, souhaiter tamanni al-maut min shiddati al-bala'. Souhaiter la mort à cause de la dureté des épreuves. Les épreuves seront tellement dures, tellement insupportables que, comme l'a dit le prophète, il dit la taqum sa'a hatta yamur ar-rajul fa yaqul laytani makana. Il dit, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'un homme passera auprès de la tombe d'un autre et dira, si seulement je pouvais être à sa place. Tellement que les épreuves sont dures à supporter, tellement que le désordre règne. Et cette personne souhaite mourir, dirait Rabbi, que je meure, que je me mette à la place de cette personne, que je suis tranquille, que je suis libéré de ces problèmes et de ces épreuves qui nous frappent de part et d'autre. Et Ibn Mas'ud dit même plus loin, Ibn Mas'ud dit, سيأتي عليكم زمان, سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه. Vous imaginez, Ibn Mas'ud dit, سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه. Viendra une époque où si l'un d'entre vous voit que la mort peut être achetée, il l'achètera. Tellement que les épreuves sont insupportables. Et bien sûr, après tous ces petits signes, quand ils seront complets, c'est là que les grands signes apparaîtront. Et les grands signes, bien sûr, c'est Ad-Dajjal, comme on va en parler aujourd'hui, c'est aussi la descente de Isa alayhi salam, c'est aussi la venue d'El Mahdi, c'est également, parmi les grands signes, il y a aussi ce qu'on appelle cette fumée Ad-Dukhan qui va se répandre, il y a aussi le fait que un vent doux qui viendra du Yémen prendra les âmes des croyants et ne resteront que les mauvaises personnes, les gens de perversion et d'hypocrisie restant sur terre, de mécréance. Ça, ce sont les grands signes. La sortie de cette bête, Dabba, également fait partie ou font partie des grands signes. Mais ici, il y a deux remarques importantes. Premièrement, Vous devez savoir, mes chers frères et sœurs, que les grands signes n'apparaîtront que lorsque deux choses se produiront. Les grands signes n'apparaîtront que lorsque deux choses se produiront. Premièrement, les petits signes seront prédominants. Ils seront partout. Car vous devez savoir que certains petits signes apparaissent en certains moments et ils ne le sont pas dans d'autres moments ou disparaissent. Certains signes sont présents en certains endroits et ne le sont pas en d'autres. L'ignorance, par exemple. L'ignorance, on voit dans certaines contrées, l'ignorance est répandue. Mais si on voit dans d'autres contrées, on voit qu'il y a beaucoup de savants et beaucoup de gens de science. Eh bien, les signes de la fin des temps, ces petits signes qui marquent l'avènement des grands, veut dire que tous les petits signes sont présents et seront prédominants. Et la deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où ces petits signes sont complets, les grands signes vont se suivre les uns après les autres, d'une rapidité inouïe. Les grands signes, la alamat al-kubra, les grands signes vont se suivre les uns après les autres d'une rapidité inouïe. Au point que le prophète sallam nous dit, il nous dit, khuruj al-ayat, khuruj al-ayat, ba'duha ala ithri ba'd. Les signes sortiront les uns après les autres. Tataba'na kama tataba'u al-kharz, ou al-kharz, fin nidham. Il dit, les grands signes se suivront les uns après les autres, tout comme ces perles, lorsque vous coupez, un collier, lorsque vous cassez un collier, les perles glissent les unes après les autres. Eh bien, il en sera de même pour les grands signes. Les petits signes sont beaucoup plus lents, ils prennent leur temps. Mais lorsqu'ils sont prédominants, ils sont partout, ils sont présents, à ce moment-là, les grands signes apparaissent et ils se suivent les uns après les autres d'une façon, avec une rapidité qui est inouïe et impressionnante. Alors, dernier point de notre introduction, quatrième point, dans quelles circonstances Al-Masih al-Dajjal, l'antéchrist, va-t-il apparaître? Va-t-il venir un beau matin, frapper à nos portes, dire voilà, je suis là, c'est moi un tel? Les gens, lorsqu'il apparaîtra, vont-ils construire des barricades? Vont-ils s'armer pour le combattre? Ni l'un ni l'autre. Que va-t-il se passer? Bien au contraire. Il va apparaître à une époque où l'ignorance est prédominante. Al-Jahl muntashir. L'ignorance prédomine. La sunna tend à disparaître, des innovations, le fait de suivre ses passions, le fait de suivre des coutumes, des traditions et tout ce qui tourne autour, tout cela prédominera. Bref, l'ignorance est là, donc bien présente. Et aussi les épreuves sont tellement nombreuses que tout cela préparera sa venue à lui. Au point qu'on ne parlera même plus de lui. Ni les gens de science, ni les gens de piété ne parleront du Messie Hadjjal. Et c'est dans cette ambiance, dans ce climat qu'il va sortir. Les gens l'auront oublié, c'est fini, il n'existe plus. Vous demandez à ces personnes, à la veille de sa sortie, connais-tu El-Messie Ad-Dajjal? Il te dira, je ne connais pas. Qui est ce personnage? Déjà maintenant, ça existe. Maintenant, de nos jours, il y a des frères et sœurs à nous qui ne savent pas qu'il existe. Que dire de cette période, de cette époque? Ce sera encore pire. Ce sera beaucoup plus dramatique. Et nous avons un hadith qui est Hassan, rapporté par Ahmed, où le prophète sallam dit, « La yakhruj ad-Dajjal, hatta yadhal al-nas an dhikrih. » Il dit, le Dajjal ne sortira pas jusqu'à ce que les gens l'aient oublié. Et jusqu'à ce que les gens de science ne le citeront plus. Les gens de science ne citeront plus le Dajjal sur les manabir, sur les chairs, donc le minbar de la mosquée. C'est dans un climat d'ignorance et d'insouciance que va apparaître donc ce personnage. Alors maintenant, nous allons appréhender ce personnage, le Messie Dajjal. Et je vous rappelle que les gens... Et invoquons Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas le croiser, de ne pas connaître cette époque. Dites Amin. Parce que cette époque sera une époque terrible. Son apparition sera terrible. Car il va tout inverser, tout. Toutes les règles de vie vont être inversées. Au point que même les croyants les plus sincères risquent de douter à ce moment-là. Les croyants les plus sincères risquent de douter de leur foi. Et risquent de glisser, de croire en lui. Tellement que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un pouvoir pour éprouver les gens et pour trier. Savoir qui a une foi ferme et qui ne l'a pas. Savoir qui suit véritablement le message et qui ne le suit pas. Alors, travaillons notre foi, mes chers frères et sœurs. Travaillons notre piété. Travaillons notre instruction, notre connaissance. Afin que nous soyons prêts à toute éventualité. Alors, je commence par deux définitions linguistiques, comme je vous l'avais promis. Le mot Al-Masih, on retrouve l'équivalent en français, Messie. Nous allons garder le terme en arabe. Le mot Al-Masih, que veut-il dire? Le mot Al-Masih, il a deux sens. Le premier, ça vient du verbe Saha Yasihu, c'est le fait de se déplacer sur terre, de bouger sur terre, de circuler sur terre. Et c'est pour ça que le tourisme en arabe, on l'appelle Siyaha, Le tourisme en arabe, on l'appelle Siyah, c'est le fait de se déplacer, de circuler sur terre. Deuxième sens du terme Al-Masih, c'est qu'il est, on dit, Memsouh Al-Ayn, c'est que son œil est effacé. Et en réalité, cette deuxième définition, Memsouh Al-Ayn, un œil effacé, c'est cette définition qui est plus propre à Dajjal. Bien que la première est aussi appropriée, parce qu'effectivement, on va voir qu'il va circuler sur terre avec une vitesse impressionnante. Il va bouger partout, il ne va pas laisser un coin où il ne va pas se rendre. Sauf Médine et la Mecque. Médine, Al-Madina ou Mecca. Médine et la Mecque sont les deux seules villes où il ne pourra pas entrer. Comme on va le découvrir ensemble, Inch'Allah. Et vous devez savoir qu'il y a deux Messie. Comme le disent les savants, ils disent Al-Masih, Masihan. Il y a deux Messie. Il y a ce qu'on appelle Masih al-Huda, le Messie de la guidance qui est Isa al-Salam, et Masih al-Dalala, et le Messie de l'égarement, qui est Ad-Dajjal. Et subhanallah, ce qui est étonnant, qui va tuer le Messie Ad-Dajjal? C'est Isa al-Salam. C'est Isa al-Salam qui va mettre fin à la terreur du Dajjal. Et tous les deux portent le même surnom, Al-Masih. Alors, le deuxième terme qu'on doit définir, c'est Ad-Dajjal. Le mot Ad-Dajjal, que veut dire en arabe? Le mot Ad-Dajjal vient du terme arabe Ad-Dajjal. Ad-Dajjal, c'est la tromperie. Ad-Dajjal, c'est la tromperie, c'est la duperie. C'est duper quelqu'un, c'est couvrir une vérité, c'est la cacher. Et c'est pour cela que l'Antéchrist et le Messie Ad-Dajjal méritent son surnom. Car il va duper les gens, il va les tromper, il va les induire en erreur, il va cacher la vérité et il va faire apparaître le faux, l'égarement sous l'apparence du vrai et de la guidance. Et c'est pour cela qu'on l'a surnommé Ad-Dajjal. Alors, point suivant, d'où va-t-il sortir? Il va sortir du côté de l'Orient, comme l'indique le prophète sallam. Min jihatil mashriq. Il va sortir du côté de l'Orient et plus précisément d'une province en Iran qui s'appelle Khorasan. Une province en Iran qui jusqu'à maintenant porte le même nom, qui s'appelle Khorasan. C'est de là qu'il va sortir. C'est de là qu'il va sortir et de là qu'il va partir donc. Ce sera son point de départ. Et le prophète d'ailleurs le dit, justement il dit, Ad-Dajjal yakhruju min ardin bil mashriq yuqalu laha Khorasan. Voyez-vous, le prophète nous dit que Ad-Dajjal sortira d'une terre en Orient qui s'appelle, cette terre s'appelle Khorasan. Et je vous rappelle que Khorasan est l'une des provinces qui se trouve en Iran. Alors, quant aux caractéristiques de cet homme, comment le reconnaître? Donc, si un jour on est appelé à le croiser, j'espère pas en tout cas, si nous étions appelés à le croiser, bien que c'est pas ce qu'il faut faire. Parce que comme on va voir, Inch'Allah, dans les façons de se prémunir, de s'immuniser contre lui, c'est que dès qu'on le voit, on doit prendre la fuite. Au galop, vite. On doit prendre la fuite. Il faut sprinter. Ça, on va voir, Inch'Allah. Mais rien n'empêche que l'on puisse découvrir un peu ses caractéristiques. Comment est-il? Et je rappellerai à mes frères et sœurs qu'à la fin de cette conférence, je parlerai de certains concepts erronés qui tournent parmi les jeunes concernant Ad-Dajjal. Comme quoi il aurait des pattes de chèvre, il aurait des cornes et tout ce qui s'ensuit. Non. Al-Masih Ad-Dajjal, l'Antéchrist est un homme comme tout le monde. C'est un être humain. Rajoul, c'est un homme. Il est jeune, premièrement. Il est jeune, sa peau est brunâtre, ses hanches sont larges, ses cheveux sont rêches, c'est précis. Hein? Il a un front dégarni, il a une poitrine élargie, son œil droit est effacé, c'est-à-dire que il a son œil droit, on voit donc l'œil, on dirait un raisin qui est percé, voyez-vous. Et quant à l'œil gauche, il y a des morceaux de chair autour qui donnent l'impression que son œil est couvert. Que son œil gauche est couverte. Et il est écrit sur son front trois lettres en arabe. Kafara. Kafara. Ou kafir, mécréant. Et ne pourra lire ces trois lettres que les croyants, eux seuls. Que ces croyants soient lettrés ou illettrés. Il n'y a que qui pourront lire. Il n'y a que les croyants. Immal mu'minun. Faqat al mu'minun. Que les croyants qui pourront le repérer et lire sur son front ces trois lettres qui seront indicatives quant au fait que c'est lui l'Antéchrist, que c'est lui le Messie Ad-Dajjal. Alors, on va voir ici quelques paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous précisent ses caractéristiques. Donc vous avez vu que, mashallah, nous avons un portrait robot. Nous avons un portrait robot de Messie Ad-Dajjal. Donc si un jour on veut faire une annonce ou une tête pour le rechercher, c'est pas difficile. Mashallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné beaucoup de détails. Mais malheureusement, on va l'oublier, c'est ça le drame dans l'histoire. C'est que nous allons l'oublier, c'est que les gens dans les temps à venir, vont l'oublier, oublieront tout cela. Alors, le prophète nous dit, rapporté par le Bukhari Muslim, nous dit, parlant de Dajjal, il l'a vu en rêve. Le prophète sallam a vu Ad-Dajjal et Isa sallam en rêve. Et vous devez savoir que ru' al-anbiya haqq, les rêves des prophètes, les songes des prophètes constituent une vérité, et cela fait partie de la révélation al-wahy. Alors le prophète sallam nous parle de Dajjal, dit fa idha rajulun jasim ahmar ja'd ar-ras. Et il dit que c'est un homme d'une certaine corpulence, une peau brunâtre, ja'd ar-ras, donc ses cheveux sont donc son reste ahmar al-ayn ka'anna 'aynahu 'anabatun tafi'a. Et son œil, donc est borne, on a l'impression que son œil ressemble à un raisin qui est percé. Voyez-vous? Et dans un autre hadith, notre prophète Mohammed sallam nous dit, il dit وَأَمَّا مَسِيحُ الضَّلَالَةِ فَإِنَّهُ أَحْوَرُ الْعَيْنِ أَجْلَ الْجَبْهَةِ عَرِيدُ النَّحْرِ فِيهِ دَفَأَ. Il dit, quant au messie de l'égarement, فَإِنَّهُ أَحْوَرُ الْعَيْنِ, donc son œil est borne. أَجْلَ الْجَبْهَةِ, front dégarni. عَرِيدُ النَّحْرِ, donc il a une poitrine large. فِيهِ دَفَأَ, et il est un peu, donc son dos est un peu courbé. Voyez-vous? Son dos est un peu courbé. Et aussi, toujours avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous décrit en détail cet antéchrist, le Messie Ad-Dajjal, aussi, وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبُ الْكَافِرِ. Et entre ses deux yeux, sur son front, il est marqué ces trois lettres, donc kafara ou kafir. Et le prophète a prononcé, il a épelé ces lettres en disant, ثُمَّ تَهَجَّاهَا كَفَارَ يَقْرَأُهَا كُلُّ مُؤْمِنِ. Le prophète s'est mis à épeler ces lettres. Il a dit, kafara, et que chaque croyant allait pouvoir lire ces lettres-là. Et dans une autre narration, il est mis يَقْرَأُهَا كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٌ وَغَيْرُ كَاتِبٌ, l'écrira, pourra le lire tout croyant, que ce croyant soit lettré ou non. Et comme le disent les savants Ibn Kathir et d'autres, ils disent, et l'imam Nawawi aussi dans son commentaire de Sahih Muslim, ces savants disent qu'en réalité, Allah Azza wa Jal va donner, par la foi que ces gens ont, même les personnes illettrées qui savent ni lire ni écrire, Allah Subhanahu wa Ta'ala va leur donner ce qu'on appelle Nour al-Basira, la clairvoyance du cœur. De par leur cœur, Allah va leur donner le pouvoir, de par leur foi, leur piété, Allah va leur donner le pouvoir de pouvoir lire ces trois lettres. Ça, c'est important. Alors, maintenant que nous avons décrit, et déjà on sait maintenant comment il est, quelles sont ses caractéristiques, comment il est physiquement, c'est un jeune, avec tout ce que cela comporte comme détails que nous venons de d'énumérer, quelles sont ces fameuses choses extraordinaires qu'il va nous apporter? Que va-t-il faire exactement? Premièrement, il va se présenter avec un paradis et un enfer avec lui. Il va se présenter auprès des gens avec un paradis et un enfer. Et écoutons ce que nous dit le prophète sallam dans Sahih Muslim. Il nous dit ma'ahu jannatun wa nar, ma'ahu jannatun wa nar, fa jannatuhu nar wa naruhu jannah. Il va apporter avec lui un paradis et un enfer. Il va nous le montrer. Le prophète nous dit, sallam sallam nous dit, le paradis qu'il nous apporte, en réalité, c'est ça l'enfer. Et l'enfer qu'il nous présente, en réalité, c'est ça le paradis. Il faut tout inverser avec lui. Aussi, il va apporter avec lui des fleuves d'eau et de feu aussi. Et le prophète nous dit, وَإِنَّ مَعَهُ نَهْرَانِ يَجْرِيَانِ. Il y aura avec lui deux fleuves qui coulent. L'un, c'est de l'eau savoureuse, et l'autre, نَارٌ يَتَأَجَّجُ. Et l'autre, c'est un feu ardent. Regardez ce que nous conseille le prophète. Il nous dit, allez vers le feu ardent. Allez vers le feu ardent, baissez vos yeux, et baissez votre tête et entrez dedans. Vous goûterez à de l'eau savoureuse. C'est tout le contraire. Ce feu, c'est là qu'il faut aller. Si vraiment on est en face, on ne sait pas comment se cacher, comment se barrer, se faufiler. Et que vraiment vous êtes face à lui, et que vous ne savez pas fuir, et bien là vous voyez le feu qui vous présente, il vous dit voilà, c'est ça l'enfer. Et bien vous, c'est là qu'il faut entrer. Vous baissez la tête, vous fermez les yeux, et vous entrez, et vous goûterez à de l'eau savoureuse, comme l'indique le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, parmi les choses étonnantes et extraordinaires qu'il va faire, il va circuler à une vitesse impressionnante et inouïe. Et ce, en 40 jours. En 40 jours, il va circuler, il va faire le tour de la planète et il va attirer derrière lui des masses. Là où il passe, n'importe quelle ville, village, région, pays, chaque fois qu'il sort d'une contrée, d'une région, d'un village, d'un pays, il sort, il y a des gens avec lui, qui le suivent, qui ont cru en lui. Et ils sont partis avec lui. Et les compagnons ont interrogé le prophète sallam dans Sahih Muslim, d'après le compagnon An-Nawas ibn Sima'an. Ils ont dit, « Ya Rasulallah, wa ma lubthu fil ard, wa ma lubthu fil ard, combien restera-t-il sur terre ?» Le prophète dit, « Arba'ouna yawma, il restera 40 jours. »« Yawmun ka sana, wa yawmun ka shahr, wa yawmun ka jumu'a, وسائر أيامه كأيامكم. Ces 40 jours, un jour, parmi les premiers jours où il va venir, un jour équivaut à une année. Et un autre jour équivaut à un mois. Et un autre jour équivaut à une semaine. Et le restant des jours équivaut à vos jours, à vous ordinaires. Donc vous voyez comment ce sera terrible ce qu'il va faire. Donc la situation sera certes perturbante et donc dramatique. Alors ils ont aussi interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses compagnons qui sont perturbés par cet antéchrist, ce Dajjal, qui veulent en savoir plus, ils lui disent, « Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, wama isra'u fil ard ?» Comment va-t-il, quelle sera sa vitesse sur terre? Et c'est là que le prophète dit, « Kal ghayth idha istadbarat ar-rih » C'est comme une pluie qui est orientée par un vent. Il va très vite. Il circule à une vitesse inouïe et impressionnante. On n'arrive pas à le rattraper. C'est ça Dajjal, mes chers frères. Et également, parmi les choses étonnantes qu'il va faire, il va ordonner au ciel de faire tomber la pluie. Et il va ordonner à la terre de faire pousser ce qu'elle a, comme légumes ou fruits ou plantes, et il en sera ainsi. Tous ces pouvoirs qu'Allah lui donneront, c'est dans le but d'éprouver, min ajlimtihan innas, d'éprouver les gens. Et il fera tout cela, et les gens seront certes ceux qui seront faibles de foi, ceux qui seront perturbés et déstabilisés, risquent de tomber facilement dans son piège. Parce qu'il va ordonner au ciel de faire tomber la pluie, et la pluie tombera. Il va ordonner à la terre de faire pousser ce qu'elle a en elle. Et elle en fera de même. Il va ordonner à une terre dans laquelle se trouve enfoui un trésor de faire sortir ce trésor. Et ce trésor sortira et le suivra. Suivra le Messie Dajjal. Donc vous voyez comment cette situation, ces circonstances dans lesquelles il va apparaître sont des circonstances troublantes et perturbantes pour le croyant et sa sérénité. Alors le prophète justement nous dit, toujours dans le même hadith, que je viens de citer, apporté par Muslim d'après le compagnon Nawas ibn Sima'an, il dit فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ أَنْ تُمْتِرَ فَتُمْتِرَ. Il ordonnera au ciel de faire tomber la pluie, et il en sera de même. وَالْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ. Il ordonnera à la terre de faire pousser ce qui est en elle, et elle fera pousser ce qui est en elle. Et وَيَأْمُرُ بِالْخِرْبَ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكِ فَتَخْرُجُ فَتَتْبَعُهُ. Et il passera par un village abandonné, ou un terrain abandonné, et il dira à ce terrain, sors ce qui est en toi comme trésor. Et ce terrain abandonné, ce terrain vague, fera sortir ce qu'il y a en lui comme trésor, et ce trésor le suivra, donc suivra donc Dajjal. Aussi, parmi les choses étonnantes qu'il va faire, il va prétendre être le Seigneur. Mais pour ça, il va tester quelqu'un. Il va dire à quelqu'un, il va lui dire, Ara'ait, in ba'athu laka, abaka ummak. Il va parler à un bédouin, il va lui dire, vois-tu, si je fais ressusciter ton père et ta mère, vas-tu croire au fait que c'est moi ton Seigneur? Et malheureusement, cet homme va dire, bala, oui, certes, je croirai. Et c'est là que deux satans apparaîtront sous la forme des parents de ce bédouin, et pire que cela, ils diront à ce bédouin, Yabunay, itba'u fa'inu rabbuk. Oh mon fils, donc ces deux satans que Dajjal qui travaille avec lui, il va les faire apparaître. Ils apparaîtront sous le visage et l'apparence des parents de ce bédouin. Et ces deux satans qui ont pris l'apparence des parents de ce bédouin diront à ce bédouin, ils lui diront, oh mon fils, suis cet homme, suis-le, car c'est ton Seigneur. Voyez-vous comment c'est terrible. Et également, ce que va faire Dajjal parmi les choses extraordinaires, il va tuer un jeune. Il va le couper en deux. Il va tuer un jeune, le couper en deux, et puis le redonner la vie. Mais attention, malheureusement pour Dajjal, ce jeune, comme l'a dit le prophète, il dit min khiyar an-nas, il fait partie des meilleures personnes. Il fait partie des meilleures personnes de piété. Et quand ce jeune homme verra Dajjal, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit ashhadu annaka ad-dajjal alladhi hadathana anhu aw alladhi hadathana ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam hadithahu. Je témoigne que c'est toi l'antéchrist, c'est toi Dajjal. C'est toi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit. Et c'est là que il le tue. Il le coupe en deux. ثُمَّ يُحْيِيهِ. Ensuite, il lui redonne vie. Et que dira ce jeune homme? Il dira à ce moment-là, et avant ça, lorsqu'il fera ce geste miraculeux devant les gens, il va leur dire, alors maintenant, أَتَشُكُونَ فِي أَمْرِي. Doutez-vous en moi? Doutez-vous au fait que c'est moi votre Seigneur? Il va leur dire ça. Et eux, malheureusement, vont répondre, là, on ne doute pas en cela. Mais ce jeune, quant à lui, il dira, وَاللَّهِ مَا كُنْتُ فِيكْ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنَ الْيَوْمِ. Ce jeune garçon pieux que Dajjal va tuer, va couper en deux, il lui redonner la vie, il dira, Wallah, depuis que tu m'as fait ça, ma clairvoyance te concernant n'a cessé d'augmenter. je suis encore plus sûr et plus convaincu que c'est toi Dajjal. Et il essaiera de le tuer. Dajjal, yurid an yaqtulahu, fala yusallat alayh. Et Dajjal essaiera de tuer ce jeune, mais il ne pourra pas le faire. Allah Azza wa Jal protégera donc ce jeune. Alors ça, ce sont quelques-uns de ces miracles, entre guillemets, qu'il fera. Alors qui sont les partisans de Dajjal? Qui sont ces gens qui vont le suivre? Alors qui seront les partisans, les disciples, les fidèles, les adeptes de l'antéchrist et de Dajjal? Qui seront-ils? D'abord, il y aura des juifs, Yahoud. Il y aura 70 000 juifs de la ville de Asfahan, en Iran, qui est une ville encore qui existe encore de nos jours en Iran. Et le prophète nous dit, dans Sahih Muslim, nous dit, « Yatba'u Dajjal, 70 000 Yahoud min Asbahan, alayhim al-tayalisa. » Ils disent, suivront le Dajjal 70 000 juifs de la ville de Asbahan ou Asparan qui se trouve en Iran. Et ils portent tous donc le rabbi, une sorte de soutane qu'on appelle Taylusan ou Taylasan. Taylasan, c'est une sorte de soutane que portent donc les juifs, une tenue religieuse. Eh bien, ces 70 000 juifs qui sortiront de cette ville et suivront le Dajjal. Aussi, beaucoup de personnes ignorantes, beaucoup de bédouins. Et on parle aussi de Turkmènes également. Le prophète parle de Turkmènes. Pas les Turcs, Turquie, hein. Turkmènes. Et beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes le suivront. Et ce, en raison de l'ignorance et en raison du fait que les femmes sont très émotives. Alors le fait qu'elles soient très émotives, il va réussir à jouer sur leurs sentiments et il va les faire suivre facilement. Le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que lorsque Dajjal arrivera sur un territoire, qu'est-ce qui va se passer? Il dit... La majorité, lorsqu'il débarquera quelque part, la majorité des personnes qui sortiront vers lui, ce sont des femmes. Écoutez bien, c'est étonnant. Il dit, حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه أو إلى أمه أو إلى ابنته أو إلى أخته أو إلى عمته فيوثقها حتى لا تخرج إليه. Il dit au point qu'un homme, qu'est-ce qu'il fera? Lorsqu'il verra cette ambiance, il va vite retourner à la maison. S'il a son épouse ou sa bien-aimée, ou sa mère, ou sa sœur, ou sa tante, il va retourner, il va l'attacher avec des cordes. Il va attacher sa femme, ou sa mère, ou sa sœur, ou sa tante avec une corde ou des cordes. Tout ça pour l'empêcher de sortir des jets de Dajjal, parce qu'elles vont se laisser influencer facilement. Ça, ce sont mes chers frères et sœurs, ces personnes-là, ces catégories de gens-là qui suivront donc Dajjal. Et ce n'est pas étonnant pour concernant les juifs, car vous devez savoir que les juifs attendent l'arrivée d'un roi messie. El Yahoud, les juifs attendent l'arrivée d'un roi messie. Et maintenant, eux, ils travaillent à vive allure pour bâtir leur grand Israël afin de faire ce qu'ils appellent donc le grand royaume. Al-Mamlaka al-Uzma, le grand royaume, pour préparer la venue du grand roi messie qui, justement, c'est Dajjal lui-même. C'est lui. Donc, vous voyez comment les sources se croisent. Et il y a un arrêt important à faire sous une forme d'une question. Ad-Dajjal est-il vivant? Et était-il présent à l'époque du prophète sallam? Grande question. On va commencer par la deuxième question. Était-il présent à l'époque du prophète sallam? Important de s'arrêter concernant un fait divers important. Il y a un homme ou un adolescent à l'époque du prophète sallam qui s'appelait Abdullah ibn Sayyad. Abdullah ibn Sayyad, et on peut également dire Abdullah ibn Sa'id. C'était un des juifs de Médine. C'est un adolescent. Et le prophète sallam a douté le concernant. Il a douté de sa personne. Il a pensé peut-être que c'est lui l'antéchrist, Dajjal. Il va le mettre à l'épreuve. Parce que des rumeurs commencent à circuler à Médine, comme quoi ce jeune homme, cet adolescent, entre guillemets, faisait certains miracles. Et il a informé les gens de certaines choses qu'ils ne sont pas censés savoir ou connaître. Et que lui connaît. Alors c'est là que le prophète s'est caché derrière certains palmiers, l'observant en train de jouer avec des enfants. Et puis il vint à lui. Alors il va le tester. Il va lui dire, Inni qad khabba'tu laka khabi'a. Je t'ai caché quelque chose. C'est quoi? Devinette. Donc le prophète lui fait une devinette. Pour le tester. Il fait, je t'ai caché quelque chose, c'est quoi? Alors c'est là qu'il dit, Dukh. Et le prophète le regarde et lui fait, Irsa. Falan ta'adwa qadrak. Que tu sois méprisé, tu ne dépasseras pas tes limites. En réalité, le prophète pensait à un verset, qui est le verset 10 de la sourate Dukhan, la sourate la fumée. Le verset où Allah dit فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءِ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. Attendez donc lorsque le ciel apportera donc un nuage qui est donc évident et clair. Ou plutôt une fumée qui est évidente et claire. Eh bien le prophète s'est pensé à Dukhan. Alors il lui a dit qu'est-ce que je t'ai caché? Il le teste. Et c'est là que lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la moitié du mot. Dukh. Et c'est là que le prophète a vu que c'était un grand charlatan. Et cette méthode est très connue chez les charlatans. Des codes entre eux et les shaitans avec qui ils travaillent, ils ne disent jamais le mot entièrement, que la moitié. Et donc, face à cette situation, le prophète a eu un doute concernant cet homme. Est-ce lui le Dajjal? Car il a un comportement très bizarre, très suspect. Les gens se méfient de lui à Médine. Rappelez-vous de son nom, Abdullah ibn Sayyad. C'est un adolescent, très suspect. Et il informe les gens de certaines données, informations, que lui, normalement, n'est pas censé savoir. Voyez-vous? Alors, certains compagnons n'ont pas apprécié cette situation. Entre autres, Omar al-Khattab. Et vous connaissez Omar. Omar dégaine plus vite que son ombre. Omar al-Khattab, il ne va pas par quatre chemins, par un seul. Lorsqu'il était témoin avec le prophète sallam du comportement de Abdullah ibn Sayyad, il a dit à la soeur, laisse-moi faire. Laisse-moi lui couper sa tête. Alors écoutez la réponse du prophète. Et c'est là qu'on voit que le prophète avait un doute. C'est là qu'on voit que le prophète n'a pas reçu de révélation, il avait un doute concernant cet homme. Il a dit, Dahu, laisse-le. Fa'in yakunhu, si vraiment c'est lui de Djal, fa'lan tu sallata alayh, tu seras incapable de le tuer. Mu'in lam yakunhu, et si ce n'est pas lui, fa'la khayr laka fi qatlih. Tu n'as aucun intérêt, aucun bénéfice à le tuer. Laisse-le. Et parmi les compagnons qui vont douter de lui, il y a le compagnon Jabir ibn Abdullah aussi. Ainsi que Abdullah ibn Omar. Et Abdullah ibn Omar va un jour tester Abdullah ibn Sayyad. Et c'est là qu'il va, il va avoir un doute, ou plutôt il va vraiment penser que c'est lui de Dajjal. Quant à Jabir ibn Abdullah, Jabir lui va jurer, parce que Omar jure et dit « Ahlifu billah, anna ibn Sayyad huwa Dajjal. » Je jure par Allah qu'Ibn Sayyad, qu'Abdullah ibn Sayyad, c'est lui de Dajjal, c'est lui l'antéchrist. Et Jabir va jurer comme Omar. Quant à Abdullah ibn Omar, quant à lui, que va-t-il faire? Il va croiser dans l'une des rues de Médine, écoutez bien, c'est choquant comme chose. Il va croiser dans l'une des rues de Médine, il va croiser Abdullah ibn Sayyad. Et Abdullah ibn Omar va le provoquer. Il va le mettre en colère. Et du coup, Abdullah ibn Sayyad qui se met à gonfler. Il se met à gonfler au point que lorsqu'il gonfle, il a inclus toute la rue, comme un ballon. Et c'est là que c'est là qu'Abdullah ibn Omar a dit, c'est lui de Dajjal, il n'y a pas de doute. C'est lui de Dajjal. Et un autre compagnon qui a eu de la pitié pour lui, un autre compagnon qui a eu de la pitié pour Abdullah ibn Sayyad, c'est Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri était au courant, écoutez bien, son histoire est assez étonnante. Il était au courant des rumeurs qui tournaient autour de Abdullah ibn Sayyad. Et le destin a voulu qu'ils fassent un voyage ensemble. Donc Abu Sa'id al-Khudri avec Abdullah ibn Sayyad. Ils font un voyage ensemble. Et durant tout le trajet, Abu Sa'id al-Khudri est sur ses gardes. Il est méfiant. Même lorsque Abdullah ibn Sayyad apportait de la nourriture à Abu Sa'id al-Khudri, il refusait de la manger. Tellement qu'il était psychose. Il était méfiant. Il dit, c'est lui Dajjal. Il va me faire avaler un poison ou je ne sais quoi. Alors c'est là que Abdullah ibn Sayyad va se défendre. Il va dire, franchement, je me sens mal à l'aise. Je suis mal à l'aise. Tout le monde parle sur moi. Et il dit, crois-moi Abu Sa'id, c'est pas moi Dajjal. Voilà que c'est pas moi. Il dit, regarde la preuve. Dajjal est mécréant. Moi, je suis musulman. Parce qu'il s'est converti après la mort du prophète, il s'est converti. Cet homme, Abdullah ibn Sayyad, après la mort du, il était adolescent à l'époque du prophète. Après la mort du prophète, il s'est converti à l'islam. Alors, il va se défendre, il va se justifier. Il va dire, regarde. Il dit, Dajjal kafir, wa ana muslim. L'antéchrist est mécréant. Moi, je suis musulman. Premièrement. Il va dire, Dajjal n'aura pas de descendance. Moi, j'en ai une. J'ai laissé mes enfants à Médine. Troisièmement, il va dire, Dajjal n'entre pas à Médine à la Mecque. Il dit, moi, je vivais à Médine. Et je vais maintenant à la Mecque. Voyez-vous? Et c'est là que, c'est ici que Abu Sa'id al-Khudri, il dit, Hatta kitu an a'dhirahu. Il dit, j'ai failli l'excuser. Mais après, c'est là où il va un peu chipoter. Abdullah ibn Sayyad est encore perturbé, encore plus. Abu Sa'id al-Khudri va dire, et c'est pas fini, tu sais, le Dajjal. Je sais où il est. Je connais ses parents et je sais quand il va naître. Alors là, il a perturbé complètement Abu Sa'id al-Khudri. Là, vraiment, au début, il commence à être convaincu, presque convaincu que c'est pas lui. Mais là, lorsqu'il dit, fa wallahi inni la a'rifu mawlidah, je sais quand il est né, wa a'rifu makanahu wa a'rifu abawayh wa ayna yakhruj. Je connais ses parents, je sais où il est, je sais où il va sortir. Alors là, il s'est dit, hada, là maintenant, je sais plus à qui j'ai affaire. Alors, certains savants, à partir de ce récit, ont tranché sur le fait que c'est lui, Dajjal, Abdullah ibn Sayyad. Et parmi ces savants, nous avons l'imam al-Qurtubi, le mufassir très connu, l'imam al-Qurtubi, ainsi que l'imam al-Nawawi, et également l'imam al-Shawkani. Ces trois savants, entre autres, ont tranché pour le fait que ce jeune homme, Abdullah ibn Sayyad, c'est lui, Dajjal. Et ce qui est encore suspect, c'est qu'il a disparu lors d'une bataille, on ne l'a plus retrouvé. Lors d'une bataille, en Arabie, il a disparu. Et c'est ça que certains gens de science, entre autres Ibn Hajar, entre autres Al-Hafid Ibn Hajar, dans son livre Fathul Bari, lorsqu'il a parlé dans le chapitre des épreuves, Kitab al-Fitan, lorsqu'il a parlé de Dajjal, et lui aussi il a penché pour cet avis. Il a penché pour le fait que c'est probablement lui. En disant la preuve c'est qu'on n'a plus retrouvé. Il a disparu lors d'une bataille en Arabie, plus de traces. On ne sait plus où il est. Mais en réalité, il n'est pas Dajjal. Ce n'est pas lui Dajjal. En réalité, Abdullah ibn Sayyad n'est qu'un charlatan parmi les charlatans. C'est un charlatan parmi bien d'autres. Quant au Dajjal, on doit écouter l'information suivante. Dans Sahih Muslim, il est relaté que, d'après le compagnon Tamim ibn Aws al-Dari, qui était chrétien à l'époque, ce compagnon a relaté, a raconté une histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit un jour, nous étions en mer avec un groupe, nous étions dans un bateau en mer, et la tempête nous a pris. Et notre bateau a erré pendant un mois, jusqu'à ce que nous nous sommes retrouvés au bord d'une île. Et lorsque nous sommes descendus, nous avons mis les pieds sur cette île, El Jazeera, nous a accueilli une grande bête, Dabba. Une bête poilue, plein de poils, et qu'on n'arrive même pas à bien l'observer. Elle nous a accueillis et elle est venue avec moi. Et on l'a surnommée, cette bête, on l'a surnommée El Jessasa. Retenez bien ce nom. El Jessasa, ça vient du mot Jessa Yajusu, c'est celui qui apporte les informations. Et c'est de là que vient le mot Jassus, espion, en arabe. El Jassus, c'est l'espion en arabe. El Jassus, elle a dit Yajusu al-Khabar, c'est celui qui apporte les informations. Eh bien ici, c'est cette bête étrange, immense, poilue, qui a accueilli donc Tamim et ses amis. Elle leur a dit, venez avec moi. Et elle les a emmenés dans un petit village d'Ir, dans un petit village où il y avait un homme d'une très grande corpulence qui était enchaîné. Alors, une discussion est née entre Tamim et ses amis, ses compagnons, ainsi que cet homme enchaîné. Cet homme enchaîné leur pose la question. Il leur dit, qu'est devenu l'oasis de Bayasan? Bayasan, c'est une région donc en Jordanie. Qu'est devenu cette oasis? Alors c'est là que Tamim et ses amis disent, cette oasis, jusqu'à maintenant, donc c'est des dattiers, produisent encore des dattes jusqu'à maintenant. Alors il leur dit, eh bien, sachez que bientôt, il n'en produira plus. Qu'en est-il du fleuve de Tabariya? Tabariya, c'est un fleuve en Palestine. Y a-t-il encore de l'eau dans ce fleuve? Ça, c'est cet homme enchaîné qui dit ça. Alors Tamim et ses disciples ou ses amis disent, oui, il y a de l'eau abondante. Et c'est là que Dajjal dit, bientôt il n'y en aura plus.
Nous l'informâmes qu'il, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait eu le dessus sur les Arabes qui l'entouraient, et ils finirent par lui obéir. Il leur dit, ceci s'est vraiment passé? Lorsque nous lui répondîmes par l'affirmative, il enchaîna en disant, certes, il valait mieux pour eux qu'ils lui obéissent. Et je vous informe, quant à ma personne, je suis El Messie Ad-Dajjal, l'Antéchrist. Il me sera bientôt permis de sortir. Je traverserai la terre et je ne laisserai de bourgade, de village, sans y pénétrer. Et ce durant 40 nuits, excepté la Mecque et Tayyiba, Médine. Toutes deux me seront interdites. Et à chaque fois que j'essaierai de pénétrer l'une d'entre elles, un ange m'accueillera. Celui-ci sera armé d'un sabre brandi et il me refoulera. Chers frères et sœurs, tels sont les détails de ce récit rapporté par Muslim, selon le compagnon Tamim ibn Aws ad-Dari, qui rencontra cet homme enchaîné sur cette île qui dit être l'antéchrist, al-Messih ad-Dajjal, à travers ce dialogue que vous venez de découvrir avec moi et que je vous ai bien sûr résumé. Et un point intéressant à relever de ce dialogue, de cette discussion qu'il y eut entre Tamim ibn Aws ad-Dari et ses amis qui étaient en voyage en mer et qui ont atterri sur cette île, et cet homme qui dit être l'antéchrist, c'est que la plupart de ces informations que cet homme leur a communiquées, leur a dit, eh bien il s'avère que celles-ci sont tout à fait fondées pour les gens donc de cette époque, ou plutôt pour cette période. Alors maintenant, la question qui se pose et s'impose, comment se prémunir de cette terrible épreuve qui est celle de l'antéchrist, al-Messih ad-Dajjal? Plusieurs orientations s'offrent à nous. La première, c'est de s'attacher fidèlement aux enseignements de l'islam, de s'armer de la foi, l'iman, d'apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et attributs. C'est la meilleure manière et le meilleur moyen de se rapprocher de lui, exalté soit-il, de mieux le connaître. Ainsi donc, le croyant qui se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers son obéissance, à travers la connaissance de ces noms et attributs, celui-ci sera prémuni, sera protégé face aux méfaits de l'Antéchrist. Et si un jour, il devait le rencontrer, eh bien, il ne sera pas trompé ni leurré par les propos enjolivants et embellissants de cet homme, de cet imposteur, qui prétendra qu'il est le Seigneur, qu'il est le Créateur. Le croyant, lui, ne se laissera pas tromper, car il connaîtra la vérité de par le fait qu'il connaît son Créateur et qu'il a appris à se rapprocher de lui et à le découvrir à travers ses noms et attributs. Et seuls les faibles d'esprit, seuls les insouciants, seuls ceux qui sont faibles, qui sont très loin de leur foi, seuls eux succomberont à cette épreuve terrible et se laisseront leurrer et tromper par ce personnage infâme et imposteur qu'est Al-Messih Dajjal, l'Antéchrist. Aussi, parmi les orientations qui s'offrent à nous pour nous prémunir de ces méfaits, c'est de demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette dure épreuve que sera celle de l'Antéchrist. Et particulièrement, demander cette protection particulièrement durant la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une invocation que nous devons dire et formuler durant nos prières obligatoires et particulièrement lors du dernier tashahhud, lors de la dernière unité que nous accomplissons lors de nos prières obligatoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne l'invocation suivante. Il dit: Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih al-dajjal. Ô mon Seigneur, je te demande protection, je te demande refuge contre le châtiment de la Jahannam, donc le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre l'épreuve de la vie d'ici-bas, contre l'épreuve de la mort, et pour finir, contre les méfaits de l'épreuve de l'Antéchrist, min sharri fitnatil masih ad-dajjal. Aussi, apprendre les 10 premiers ou les 10 derniers versets de la sourate La Grotte, sourate Al-Kahf, cette sourate que nous récitons le jour du vendredi, avant la prière du vendredi. Eh bien, il est rapporté dans un hadith, dans une tradition prophétique propre à l'imam muslim, rapporté par l'imam muslim. Dans cette tradition prophétique, le prophète sallam nous incite à apprendre les 10 premiers versets, dans une autre narration propre à ce hadith, les 10 derniers versets de la sourate La Grotte. C'est l'un des meilleurs moyens de se prémunir face aux méfaits de cet imposteur. Et aussi pour finir, quant au moyen de se prémunir contre cet imposteur, c'est prendre la fuite lorsqu'il se présente à nous. Si nous sommes, et que Dieu nous en préserve, si nous sommes confrontés à lui, nous devons prendre la fuite. Nous devons nous éloigner de lui. Et en ces temps-là, ces temps d'épreuve qui seront le sien, le meilleur endroit de refuge pour le croyant et la croyante à cette époque-là, et que Dieu nous en préserve, le meilleur refuge étant Médine et la Mecque. Les croyants qui iront s'installer à Médine et à la Mecque à cette époque-là, eh bien, seuls eux seront protégés solidement de cet imposteur, car comme nous l'avons indiqué précédemment, à chaque fois qu'il essaiera de pénétrer à Médine ou à la Mecque, un ange armé d'un sabre qu'il brandit dans sa figure le chassera et le refoulera. Et seuls ces gens-là, seuls les Médinois et les Mécois qui y sont installés, qui sont installés dans ces deux villes, seront protégés face à cet imposteur, et que Dieu nous préserve de ses méfaits. Quelle sera la fin tragique de l'Antéchrist? Comment va-t-il terminer? Cet homme sera appelé à disparaître. Ses méfaits vont bien un jour ou l'autre s'arrêter. Comment va se dérouler tout cela? Eh bien, lorsque la terre sera remplie de corruption, ou plutôt lorsque la corruption se répandra sur terre et que ses partisans seront nombreux, c'est à ce moment-là que Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, descendra à Damas. Il descendra auprès de la tour orientale Al-Manar al-Sharqiyya, auprès d'une porte dénommée la porte de l'Oud. Et lorsqu'il descendra, les croyants qui le reconnaîtront, les croyants présents à cette époque qui le reconnaîtront, se rangeront derrière lui. Et c'est là que Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, prendra la direction avec lui, cette armée de croyants, il prendra la direction et partira pour tuer l'Antéchrist, Al-Masih, Al-Dajjal, ou autrement dit, il partira en sa direction. Et au même moment d'ailleurs, l'Antéchrist, Al-Masih, Al-Dajjal, marchera sur Jérusalem, Beit al-Maqdis. Et lorsqu'il observera, Isa ibn Maryam, lorsqu'il le verra arriver, donc l'Antéchrist, lorsqu'il verra arriver Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam, par la peur qu'il animera, l'Antéchrist fondra comme fond le sel dans de l'eau. Et c'est là que Isa lui dira, sur ce moment-là, il y a un coup fatal que je dois te donner, et je ne pourrai te rater. Isa le poursuivra et le tuera sur le champ en lui jetant sa lance. Et après quoi, ses partisans seront vaincus, beaucoup de victimes, beaucoup de ses partisans tomberont et d'autres prendront la fuite. Et c'est ainsi que se terminera cette dure épreuve qui est celle de l'Antéchrist, El Messie Dajjal. Et celui qui mettra fin à son existence sur terre, c'est comme vous venez de le découvrir, c'est Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, lors de son retour sur terre. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans une tradition authentique, donc rapportée par Ahmed et Tirmidhi, nous prédit justement que Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, sera celui qui tuera l'Antéchrist, le Messie Ad-Dajjal. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ce sujet, « Yaqtul ibn Maryam Ad-Dajjal bi Babiloud. » Le fils de Marie tuera l'Antéchrist non loin de la porte de Loud en Syrie, donc à Damas. Et je terminerai ce sujet, chers frères et sœurs, par quelques indications concernant certaines conceptions erronées quant à ce personnage, cet imposteur qu'est l'Antéchrist, Al-Messih Dajjal. Il y a trois concepts erronés qui sont très répandus dans notre communauté, dans nos sociétés musulmanes, quant à ce personnage qu'est l'Antéchrist. Le premier de ces concepts erronés, c'est que malheureusement, il y a une certaine culture populaire qui s'est répandue dans les masses musulmanes qui nous décrit. Cette culture populaire nous décrit l'Antéchrist. Et je peux vous garantir que lorsque nous écoutons attentivement certaines personnes âgées ou tout simplement certains musulmans et musulmanes ordinaires de notre communauté, lorsqu'ils nous parlent de l'Antéchrist, nous sommes surpris et étonnés de la manière dont ils le dépeignent. On a l'impression que nous avons affaire à un extraterrestre. Alors on nous décrit un personnage très bizarre, avec un œil au milieu de son front. Bref, vraiment une vision assez futuriste de ce personnage, alors que les traditions prophétiques sont assez explicites quant à sa description, et nous en avons parlé précédemment. Aussi, conception erronée quant à l'Antéchrist, c'est l'opposé de ce que nous venons de dire. Donc nous avons vu qu'il y a une culture populaire erronée, remplie, ou plutôt animée de superstitions. Malheureusement, certains musulmans ont pris le versant opposé de celle-ci. D'autres, certains par complexe face à la rationalité, ou par réaction face à cette exagération que l'on retrouve chez beaucoup de musulmans, au point de tomber dans les superstitions, certains musulmans en sont venus à nier son existence et à considérer tout ce qui tourne autour de l'Antéchrist, toutes ces informations et tous ces récits, même s'ils sont repris dans des traditions prophétiques, ils en sont venus à considérer et à percevoir toutes ces informations touchant l'Antéchrist comme étant de la pure superstition. Ces gens-là ont confondu deux choses. Ils ont confondu les traditions authentiques, al-ahadith al-sahiha, les traditions authentiques, explicites, qui nous parlent de l'Antéchrist. Al-ahadith al-sahiha wa-sariha. Ils ont confondu cela avec cette culture populaire superstitieuse qui nous dépeint et nous décrit l'Antéchrist d'une manière tout à fait erronée et qui ne correspond pas du tout avec ce qui a été repris dans les traditions prophétiques, sans oublier malheureusement que certains musulmans qui sont tombés dans le piège du culte de la rationalité et par complexe face à cette rationalité qui prévaut en Occident, ont fini par, comme je le disais, ils ont fini par contester et par remettre en question son existence. Et remettre en question son existence, c'est tout simplement démentir la parole du prophète sallam, c'est accuser le prophète sallam d'une manière ou d'une autre, sachant que ces traditions prophétiques sont authentiques et elles ne supposent aucun doute sur le plan des sources. Et troisième conception erronée, c'est le fait de constater que certains intellectuels musulmans contemporains, certains parmi eux sont déjà décédés, qu'Allah les couvre de sa clémence, en sont venus, chers frères et sœurs, jusqu'à interpréter l'antéchrist, la personne de l'antéchrist, et à l'interpréter à savoir en disant qu'il ne s'agit pas d'un personnage, mais que c'est une forme imagée, et qu'aujourd'hui l'antéchrist, ce sont les médias qui manipulent les gens, les médias qui réussissent, malheureusement, à faire passer un mensonge pour une vérité, et une vérité pour un mensonge, une vertu pour une chose mauvaise et négative, et un mal et une perversion pour étant un mérite et une qualité. Alors certains de ces intellectuels musulmans, voyant le pouvoir grandissant des médias, et ce n'est pas pour rien que certains aujourd'hui nous parlent du premier pouvoir dans nos sociétés, qui est celui des médias, ce sont les médias qui influencent les politiques, ce sont les médias qui conditionnent les mentalités. Alors certains de ces intellectuels musulmans ont été jusqu'à interpréter la personne, ou plutôt les informations concernant l'antéchrist, et à les appliquer sur les médias, et ceci bien sûr est tout à fait erroné, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes ses traditions authentiques, nous parle bien d'un personnage et nous le décrit dans le moindre détail. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas parlé, s'il n'avait pas décrit à travers tous ces détails, nous aurions pu supposer qu'il est possible que ce soit, par exemple, hein, que ce soit des médias ou n'importe quelle autre méthode donc trompeuse, qui trompe les gens et les hommes. Mais cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté de nombreux détails assez précis. Il a décrit physiquement comment il était et comment il apparaîtra. Et comme vous avez pu le découvrir dans ce qui a été dit donc précédemment, il apparaîtra dans un moment d'insouciance, d'ignorance et d'oubli total le concernant. Les gens ne seront même plus au courant. Les gens ne sauront même plus qui il est. Et pire que ça, beaucoup de gens ignoreront même son existence. Ignoreront même que cet homme apparaîtra un jour ou l'autre. Et il est triste de constater que même maintenant aujourd'hui, il est navrant de le remarquer d'ailleurs, que maintenant déjà, il y a certains musulmans, lorsque vous leur parlez de l'antéchrist, ils vous font de grands yeux, car ils vous disent après cela que c'est la première fois qu'ils ont entendu parler de cette affaire et de ce personnage. Alors c'est un devoir pour les prédicateurs, pour les gens de science, pour les savants, comme le faisait le prophète sallam, qui rappelait lui-même qu'il était un avertisseur, tout comme tous les prophètes et messagers avant lui étaient des avertisseurs auprès de leur peuple et communauté. Eh bien, nous devons l'être aussi, nous tous et toutes, maintenant qui connaissons ce personnage. Nous devons mettre en garde nos proches et répandre le message concernant ce personnage autour de nous. Alors, chers frères et sœurs, faisons le nécessaire, Inch'Allah, pour travailler notre foi, pour nous accrocher à cette voie, pour répandre autour de nous et de nos familles ce message que nous venons d'apprendre. Et j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala qui puisse nous accorder sa grâce et son salut et sa clémence. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فينا وفيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.